Le lendemain matin, le docteur Willett se rendit en toute hâte chez M. Ward afin d'être présent quand les détectives arriveraient. L'élimination d'Allen, ou de Curven, si l'on considérait comme possible la réincarnation qu'il revendiquait, et à tout le moins sa mise à l'écart définitive, était à présent une nécessité absolue à accomplir à tout prix, et il n'eut pas de mal à en convaincre M. Ward. Ils étaient restés en bas, car on désertait les étages supérieurs à cause de l'odeur nauséabonde qui y persistait, une puanteur que les plus vieux domestiques attribuaient à la malédiction lancée par le portrait à présent disparu. Les trois détectives se présentèrent à 9 heures et révélèrent immédiatement tout ce qu'ils avaient appris. Ils n'avaient malheureusement pas réussi à localiser Tony Gomez comme ils le souhaitaient, pas plus d'ailleurs que le docteur Allen, au sujet duquel il n'avait trouvé aucun indice qui aurait permis de savoir exactement qui il était et d'où il venait. En revanche, ils avaient récolté un nombre important de témoignages et de faits concernant ce personnage inquiétant. Allen passait à Pawtuxet pour un excentrique dangereux, et les habitants étaient persuadés que son épaisse barbe sable était soit teinte, soit fausse, une conviction corroborée par la découverte dans sa chambre d'un postiche ainsi que d'une paire de lunettes fumées. Sa voix, M. Ward pouvait en témoigner d'après une conversation téléphonique, était incroyablement basse et caverneuse, et son regard, bien qu'il fût dissimulé par ses lunettes noires cerclées d'écailles, était maléfique. Un commerçant qui avait pu voir son écriture lors d'une transaction affirma qu'elle était bizarre et torturée, ce qui fut confirmé par les notes indéchiffrables écrites au crayon qu'on retrouva dans sa chambre et que l'on présenta au marchand. Pour ce qui était des rumeurs de vampirisme de l'année précédente, de l'avis général, c'était bien Allen et non Curven qui devait en être responsable. Les détectives avaient également obtenu le témoignage des fonctionnaires qui étaient venus au bungalow après le regrettable incident du camion pillé. Ils ne l'avaient pas perçu aussi lugubre qu'on le disait, mais reconnaissaient qu'il se conduisait en maître dans ce cottage sombre et mystérieux. L'endroit était trop mal éclairé pour qu'ils puissent l'observer convenablement, mais ils étaient néanmoins certains de pouvoir le reconnaître. Sa barbe était curieuse et il leur semblait bien qu'il avait une petite cicatrice au-dessus de l'œil droit. La perquisition de la chambre d'Allen par les détectives ne donna rien d'autre que la fausse barbe. Les lunettes et quelques notes au crayon dans cette écriture illisible dont Willett reconnut immédiatement qu'elle était identique à celle du vieux Curven dans ses manuscrits, ainsi également qu'à celle des notes du jeune Ward retrouvées dans ses catacombes abominables et à jamais disparues. Le docteur Willett et M. Ward ressentirent une terreur subtile, insidieuse, profonde, cosmique, qui les envahissait au fur et à mesure que les faits se dévoilaient et s'emboîtaient, et ils frémirent en arrivant à la conclusion encore vague, logique, mais délirante, qui leur vint simultanément à l'esprit. La barbe postiche, les lunettes, l'écriture à peine déchiffrable de Curven, le portrait et sa petite cicatrice. Maintenant ce jeune homme à l'hôpital avec une marque semblable et cette voix caverneuse au téléphone. N'était-ce pas elle qui vint immédiatement à l'esprit de M. Ward quand son fils émettait ces chuintements pitoyables auxquels il prétendait à présent être réduit? Qui avait jamais vu Charles et Allen ensemble? Oui, les fonctionnaires. Mais après, qui ? N'était-ce pas quand Allen fut parti que, délivré soudain de ses angoisses, Charles ne quitta plus le bungalow ? Curven, Allen, Ward, par quelle fusion abominable et impie deux époques et deux personnes s'étaient-elles confondues ? Ce portrait à la ressemblance démoniaque avec Charles ne suivait-il pas des yeux le jeune homme alors qu'il se déplaçait dans la bibliothèque? Et pourquoi, aussi bien Allen que Charles, contrefaisaient-ils l'écriture de Curven même lorsqu'ils étaient seuls? les expériences épouvantables de ces malades mentaux, la crypte disparue et ces horreurs qui firent vieillir le docteur de 10 ans en une nuit, les monstres affamés dans leur puits malodorant, cette formule aux résultats impies, le message en minuscule dans la poche de Willett, les notes, les lettres, toutes ces histoires de tombes et la découverte des selles. Où tout cela menait-il donc ? En fin de compte, M. Ward choisit la seule voie sensée. Délaissant toute introspection sur ses motivations profondes, il remit au détective une plaquette à montrer au commerçant de Pawtuxet qui avait eu affaire à Allen. Elle comportait une photo de son malheureux fils sur laquelle il avait dessiné soigneusement à l'encre une paire de lunettes épaisses ainsi que la fausse barbe que les hommes avaient ramenée de la chambre d'Allen. Il attendit pendant 2 heures en compagnie du médecin dans cette maison de plus en plus oppressante de peur et de miasme, cependant que là-haut, dans la bibliothèque, le panneau vide guettait, guettait, guettait. Enfin, les hommes revinrent. Oui, la photographie retouchée ressemblait bien au docteur Allen. Monsieur Ward blêmit, et de son mouchoir, Willett s'épongea le front soudainement trempé. Allen, Ward, Curven, c'était trop extravagant pour un esprit rationnel. Qu'est-ce que le jeune homme avait bien pu invoquer ? Qu'est-ce que cette chose lui avait fait ? Qu'était-il réellement arrivé ? Qui était cette Allen qui songeait à tuer Charles parce qu'il le trouvait trop sensible ? Et pourquoi sa victime désignée avait-elle insisté dans le post-scriptum de sa lettre délirante pour que l'on fasse disparaître son corps dans l'acide ? Et pourquoi le message en latin, dont personne ne pouvait nommer l'auteur, demandait-il que Curven soit anéanti d'une manière analogue ? Quelle était cette métamorphose ? Et quand son stade ultime était-il survenu ? Le jour où il avait reçu le message de détresse ? Il en avait été angoissé toute la matinée, mais c'est le lendemain que le changement final s'était produit. Charles s'était glissé subrepticement hors de la maison, puis était revenu, mine de rien, en bravant les hommes chargés de le surveiller. C'était donc pendant son absence. Et puis non, n'avait-il pas poussé un cri de terreur en entrant dans son bureau ? Qu'avait-il donc trouvé ? Ou bien... un instant. Qui l'avait trouvé ? Un imposteur qui était rentré sans se dissimuler, alors que personne ne l'avait vu sortir. Était-ce une ombre venue d'ailleurs ? Une abomination qui avait eu le dessus sur un être apeuré qui n'avait jamais quitté la maison ? Le majordome n'avait-il pas évoqué des bruits bizarres ? Willett sonna le domestique et lui posa quelques questions à voix basse. Oh, c'était à coup sûr une sale affaire. Il y avait eu des sons, un cri, un halètement suivi d'un bruit d'étouffement, puis des craquements et des coups plus sourds. Au moins que le tout ait été mélangé. En tout cas, M. Charles n'était plus le même quand il est sorti sans dire un mot. En parlant, le majordome tremblait et reniflait l'air frais qui descendait d'une fenêtre ouverte au premier. La terreur s'était véritablement installée dans la maison. Seuls des professionnels aguerris comme les détectives n'en prirent pas la mesure complète. Mais même eux étaient nerveux, car cette affaire comportait trop d'éléments qui ne leur plaisaient pas. Dr. Willett pensait vite, et ses réflexions étaient terribles. De temps à autre, il se laissait à marmonner quelque chose lorsque lui venait en tête une nouvelle séquence d'événements effroyables, de plus en plus concluant dans cette chaîne cauchemardesque. C'est alors que M. Ward, d'un geste, signifia la fin de l'entretien, et chacun, à l'exception de lui-même et du docteur, quitta la pièce. Il était midi, et pourtant les fantômes de la nuit semblaient déjà envahir cette maison possédée. Willett s'adressa très gravement à son ami, le suppliant de lui laisser à l'avenir la responsabilité de l'enquête. Il adviendrait, prévoyait-il, des événements terribles qu'un ami saurait endurer mieux qu'un père. En tant que médecin de la famille, il lui fallait avoir les mains libres. Et pour commencer, il souhaitait rester seul dans le bureau de Charles, où l'ancien panneau au-dessus de la cheminée avait concentré autour de lui un halo d'abomination, pire encore que lorsque le portrait de Joseph Curwen jetait des regards furtifs. Monsieur Ward, abasourdi par le flot d'extravagances grotesques et de suggestions délirantes qui se déversaient sur lui de tous côtés, ne put qu'acquiescer, et une demi-heure plus tard, le docteur s'enferma dans la pièce au nid. Le père, qui se tenait dehors, entendit des bruits de fouilles, de déménagements maladroits, et enfin un craquement et un grincement, comme si l'on avait forcé la porte d'une armoire. Puis ce fut un petit cri, un bruit d'étouffement, et ce qui avait été ouvert fut violemment refermé. Il y eut un cliquetis dans la serrure, et Willett apparut dans le couloir, l'air hagard, réclamant des bûches pour la cheminée du mur sud, bien vraie celle-là. « Le chauffage est trop faible, disait-il, et les bûches électriques ne servent à rien. » Sans oser poser la moindre question, M. Ward donna des ordres, et un domestique apporta quelques bûches de pain qu'il déposa dans l'âtre en tremblant. Entre-temps, Willett était monté à l'ancien laboratoire et avait redescendu quelques objets qui n'avaient pas été déménagés en juillet. Il les avait placés dans un panier recouvert d'un linge. M. Ward ne sut jamais ce qu'ils étaient. Alors le docteur s'enferma de nouveau dans la bibliothèque où, à en juger par les nuages de fumée qui roulaient dehors depuis la cheminée jusqu'aux fenêtres, il devait avoir allumé un feu. Après de nombreux froissements de journaux, on entendit une seconde fois le bruit de porte forcée, suivi d'un bruit sourd de chute qui inquiéta tous les curieux qui tendaient l'oreille. Il y eut ensuite deux cris étouffés poussés par Willett et juste après une chose que l'on traînait par terre. Les volutes rabattues devant les fenêtres devenaient sombres et âcres et chacun aurait bien aimé que le temps lui eût épargné ces vapeurs étouffantes et empoisonnées. La tête de M. Ward lui tournait, et les domestiques s'étaient blottis les uns contre les autres en observant la fumée qui glissait vers le sol. Après une éternité, elle commença de se dissiper, et l'on entendit encore derrière la porte verrouillée des grattements, des frottements et quelques autres bruits indéfinis. Enfin, après avoir claqué la porte du supposé placard, Willett réapparut, triste, pâle et hagard, portant le panier couvert qu'il avait descendu du laboratoire. Il avait laissé la fenêtre ouverte et enfin un flot d'air pur entra dans cette pièce maudite pour se mélanger à une nouvelle odeur, celle d'un désinfectant. Le panneau était toujours là, mais il semblait à présent débarrassé de tout maléfice, calme et majestueux, comme s'il n'avait jamais supporté le tableau de Joseph Curwen. La nuit tombait, mais dans l'obscurité, les frayeurs de naguère avaient fait place à une douce mélancolie. Le docteur Willett ne raconta jamais ce qu'il avait fait. À M. Ward, il dit simplement « Je ne peux répondre à aucune question. Je dirai seulement qu'il y a différentes sortes de magie et que j'ai pratiqué une grande purge. Et les habitants de cette maison pourront dorénavant dormir tranquilles. »